Vous écoutez, on lit pour vous.
C'était impensable qu'une fille devienne agricultrice. Un texte de Caroline Monpetit paru le 13 mars 2025 dans Le Devoir. Tout le monde a une histoire, dit-on. S'inspirant du concept danois de la bibliothèque humaine, Le Devoir poursuit une série de portraits de livres vivants qu'on emprunte le temps qu'ils nous racontent leur vie. Aujourd'hui, Diane Sabourin. À 3 ans, Diane Sabourin est sortie toute seule de son lit à barreaux pour aller rejoindre ses parents qui étaient partis faire le train des vaches à l'étable. « Je me suis réveillée un matin et ils m'avaient laissée à la maison. Ils ne m'avaient pas amenée à l'étable pour faire le train. Quelle insulte! Ils ne voulaient pas me réveiller. C'est mon plus ancien souvenir, » dit-elle, dans sa maison de la Montée Cardinale à Sainte-Justine-de-Newton. L'agriculture, Diane Sabourin l'a toujours eue dans la peau. Comme son mari Jacques Séguin et 2 de leurs 4 enfants qui ont repris, depuis quelques années, leur ferme laitière, leur 50aine de vaches, leur grande culture de grains et une certaine production de bœuf. La ferme, c'est une affaire de famille. Son fils habite aujourd'hui dans la maison de son enfance, à 5 minutes de chez elle, à Très-Saint-Rédempteur. Et son père, de 91 ans, vit dans la maison qu'il s'est construite juste à côté. Des vaches, elle en a vu passer des générations et des générations dans l'étable que l'on voit de son balcon. Mais lorsqu'elle était une jeune adulte, il n'était pas question pour une femme de devenir agricultrice. On appelait les femmes qui travaillaient avec leur mari sur des fermes des collaboratrices, même si elles travaillaient à la ferme autant que leur conjoint, se souvient-elle. « Moi, j'ai tout le temps suivi mon père, j'aimais l'agriculture. Mais à l'époque, ça n'était pas dans la mentalité des gens qu'une fille prenne la relève d'une ferme. C'était impensable qu'une fille d'agriculteur dise « OK, papa, quand tu ne seras plus capable, c'est moi qui vais continuer. » Je travaillais dans les champs, j'allais à l'étable, j'avais un goût particulier pour ça. Mais non, ça n'était pas concevable. Et honnêtement, le morceau aurait été très gros pour moi toute seule. La valorisation du statut d'agricultrice, on le doit notamment à Gisèle Normando-Marleau, pionnière et fondatrice du syndicat des agricultrices de la Montérégie-Ouest, dit-elle. Diane Sabourin avait aussi un goût pour l'école, mais tout en poursuivant des études de pharmacie à l'Université de Montréal, elle lorgne la ferme laitière que son conjoint a achetée à l'âge de 19 ans. Lui-même avait grandi dans une ferme que ses parents avaient vendue lorsqu'il avait 13 ans. À l'époque, raconte-t-elle, il y avait une ferme laitière à chaque adresse de la région, mais le manque d'intérêt a décimé la relève. Aujourd'hui, à Sainte-Justine-de-Newton, on est 4 fermes laitières, dit-elle. Diane Sabourin a pratiqué comme pharmacienne durant 21 ans dans un hôpital de l'Ontario voisin, dont la frontière est juste au bout de son champ, en plus d'élever ses 4 enfants et de nourrir et de soigner les vaches de la ferme. Au milieu de la quarantaine, elle abandonne son emploi qui a jusque-là servi à payer les comptes pour retourner à ses vaches. « Je voulais construire quelque chose avec ma famille, monter un patrimoine, quelque chose qui va rester avec les années. Je leur ai donné 1 an d'avis et je leur ai dit que je partais. » Un rêve de famille. À l'époque, Diane Sabourin est dans la mi-quarantaine. Sa fille Julie a 10 ans. Avec elle, elle rêve de vendre la viande de ses bœufs, les veaux de ses vaches, dans les marchés avoisinants. C'est ainsi que se crée le marché du bœuf New Tyne, qu'elle vend à des clients locaux. Aujourd'hui, Julie a repris l'entreprise laitière avec son frère Nicolas, qui s'occupe aussi de grandes cultures, le soya qui se vend notamment sur le marché asiatique et le maïs qui se vend localement. L'épuisement, les fins de mois difficiles à boucler, elle les a connus. Et se dit particulièrement choyée du fait que 2 de ses enfants ont manifesté un intérêt à reprendre la ferme. Julie, sa plus jeune, était inscrite en études internationales et langues modernes à l'Université Laval lorsqu'elle s'est aperçue que les études en agronomie de sa coloc l'intéressaient davantage que les siennes. Entre-temps, Diane Sabourin et Jacques Séguin ont tenu la ferme à bout de bras pour permettre à leurs enfants de prendre la relève. Car le stress, financier entre autres, est inhérent à la profession d'agriculteur. Alors que la gestion de l'offre en matière de lait est très encadrée au Canada et protège les producteurs laitiers, les autres grandes cultures sont à la merci de la bourse mondiale et sujettes à des fluctuations. Soumis aux caprices des changements climatiques, les agriculteurs sont à l'avant-poste de la météo dont ils suivent les variations d'heure en heure. Des vaches, Diane Sabourin en a vu défiler des centaines. Elle se souvient de Coquine, de Coquette ou encore d'El Diablo, une vache particulièrement rebelle qui ruait ou s'excitait chaque fois qu'on s'en approchait. Il y en a d'autres qui sont colleuses, qui cherchent toujours à t'approcher et à te lécher, dit-elle. Reste que ces vaches sont aussi soumises à un calendrier de production serré. Idéalement, un veau par année et une période de lactation de 300 jours sur 360 avant d'être déclarée trop vieille et vendue à l'encan comme vache réformée pour faire de la viande hachée pour les McDonald's, dit Diane Sabourin. Cherchez la vache bleue. Elle nous invite à repérer l'indice de la vache bleue sur tous les produits laitiers, que ce soit du lait, du fromage ou de la crème, qui certifie que le produit provient du Québec. Ces produits, dit-elle, sont soumis à des normes supérieures à celles de nos voisins américains qui vendent une petite partie de leur lait chez nous en vertu d'ententes régulant l'exportation canadienne d'aluminium ou de bois d'œuvre, par exemple. Certaines hormones de croissance interdites dans l'élevage au Canada sont autorisées aux États-Unis, relève-t-elle. Pendant ce temps, les fermiers gèrent généralement une somme astronomique de dettes. Je ne connais pas d'agriculteurs qui ne sont pas endettés, dit-elle, pour des profits marginaux, malgré l'opulence apparente de leurs terres, de leurs équipements et de leurs troupeaux. L'argent, là, c'est beau, mais c'est pas ça qui te rend heureux, dit-elle. Ce qui mène les agriculteurs, c'est l'amour de la nature, c'est le besoin d'aider les gens, c'est le fait de produire quelque chose pour les nourrir. C'est la satisfaction du travail bien fait, même quand tu reviens le soir, morte de fatigue. C'était impensable qu'une fille devienne agricultrice, un texte de Caroline Montpetit paru le 13 mars 2025 dans Le Devoir.
Trouver son bonheur entre terre et cœur. Un texte de Marie-Paul Berthiaume paru le 18 mars 2025 dans La Source. Le rapport mondial sur le bonheur 2025, dont les résultats sont dévoilés le 20 mars lors de la Journée internationale du bonheur de l'Organisation des Nations Unies, dépasse le simple classement avec ses recommandations pour favoriser le bien-être des populations. À l'initiative du Bhoutan, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2011 une résolution encourageant les gouvernements à promouvoir des politiques axées sur le bonheur. En 2012, une rencontre des Nations unies sur la mesure du bien-être a conduit à la création du rapport. Depuis les années 1970, ce pays d'Asie du Sud privilégie l'indice du bonheur national brut plutôt que le produit intérieur brut. Deux Britanno-Colombiens ont contribué cette année à la rédaction de ce baromètre annuel du bien-être. L'un des rédacteurs fondateurs du rapport, John Eliwell, professeur émérite à l'Université de la Colombie-Britannique, et Lara Aknin, professeure et directrice du Helping and Happiness Lab, laboratoire de l'entraide et du bonheur à l'Université Simon Fraser. Même si le bonheur est difficile à définir, Lara Aknin, spécialiste en psychologie sociale, souligne qu'une définition de référence dans le domaine proposée par Ed Diner repose sur trois éléments clés. Des émotions positives fréquentes, l'absence d'émotions négatives et un sentiment de satisfaction à l'égard de sa vie. ce qui suscite des émotions positives, réduit les émotions négatives et favorise la satisfaction dans la vie peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, beaucoup de gens trouvent que le temps passé à l'extérieur, le temps passé avec leurs proches et le fait d'aider les autres peuvent être associés au bonheur, explique-t-elle. Milieu rural. John Helliwell note que la Colombie-Britannique, tout comme le reste du Canada, a un niveau moyen de bonheur, les zones rurales étant de beaucoup plus heureuses que les grandes villes comme Vancouver. Les gens en région rurale ou éloignés des grandes villes tendent à être plus heureux, notamment en raison d'une relation rapprochée avec la nature et leur communauté. Il cite le chapitre du rapport 2020 « How Environmental Quality Affects Our Happiness » « Comment la qualité de l'environnement affecte notre bonheur » qui démontre que les activités dans des espaces verts et calmes augmentent le bien-être. Mais le facteur clé n'est pas seulement ce que l'on fait, ou bien où l'on se trouve, mais surtout avec qui l'on partage ce moment. Le bonheur se trouve ainsi autant dans l'expérience de la nature que dans le fait de la partager avec les autres, indique le professeur d'économie. Québec. John Helliwell célèbre le fait que la ville de Québec soit parmi les villes les plus heureuses au classement mondial sur le bonheur, année après année. La province de Québec représente un exemple marquant de bonheur durable, avec une amélioration notable de la satisfaction des Québécois en moins de 30 ans, passant de la population la plus mécontente à la plus heureuse du pays, explique-t-il. Ce phénomène, appelé la révolution tranquille du bonheur, est étroitement lié au slogan « Maître chez nous », illustre de manière frappante l'impact positif de l'identité locale et du sentiment d'appartenance, touchant d'ailleurs aussi bien les francophones que les anglophones. Nelson. La Québécoise d'origine et résidente de Nelson, Andréane Crump, incarne cette réalité. J'ai le bonheur facile, grâce à une enfance heureuse, des liens forts et une bonne santé, mais aussi à une philosophie de vie basée sur l'acceptation de ce que je ne peux pas contrôler. Après avoir passé les 30 premières années de sa vie à Montréal, elle a choisi de déménager en Colombie-Britannique avec son conjoint pour se rapprocher des montagnes et d'un mode de vie axé sur le plein air. On passait toutes nos fins de semaine à s'échapper de la ville pour aller faire de la randonnée ou du ski, raconte-t-elle. On s'est dit « Pourquoi ne pas vivre directement dans notre terrain de jeu ?» La docteure a choisi la région des Kootenays-Ouest pour se rapprocher de l'alpin, mais aussi pour pratiquer la médecine familiale en milieu rural. « J'apprécie la polyvalence et l'autonomie associées à la pratique rurale. Je me sens plus proche de mes patients et plus investi dans leurs soins. Ça ajoute un défi professionnel et un sentiment de contrôle. » La jeune mère s'efforce de tisser des liens solides avec les membres de sa communauté. J'aime faire des visites spontanées avec mes enfants. Si c'est un bon moment, tant mieux, sinon on essaie ailleurs. J'apprécie aussi mes moments de solitude, même si j'en profite souvent pour appeler mes proches au Québec, relate-t-elle, priorisant les relations avec les gens qui partagent son mode de vie. L'étude « How happy are your neighbors? Variation in life satisfaction among 1,200 Canadian neighborhoods and communities » sur la variation de la satisfaction de vie dans les quartiers et communautés canadiennes classe Nelson parmi les villes les plus élevées en matière de satisfaction de vie et de sentiment d'appartenance à la communauté. C'était « Trouver son bonheur entre terre et cœur » un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 18 mars 2025 dans La Source.
Louise Dupré, Archéologie du Père, un texte d'Elsa Pépin, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires. C'est l'histoire d'un homme aimant, mais secret et silencieux, à l'instar de tant de pères québécois des années 1950 et 1960. Un père au parcours plein d'ellipses, comme autant de vides à combler, pour Louise Dupré, qui lui consacre son plus récent livre. Après avoir abordé les relations mère-fille, notamment dans la pièce « Tout comme elle », et tracé un magnifique portrait de sa mère dans l'album multicolore, l'écrivaine se risque, avec « L'homme au camion », à arpenter le versant plus occulte de son héritage. Un père mis à l'écart, un fantôme vers lequel elle avance à tâtons, avec délicatesse, laissant remonter les affects et ressurgir les images, comme le ressac d'une musique dont elle s'était éloignée et qui revient à elle. « C'est un livre que je porte depuis très longtemps », lance Louise Dupré, attablée devant un thé, lumineuse, visiblement émue de mettre au jour ce nouvel opus qui retrace la genèse du père pour reconstruire un lien perdu. « Je sens le besoin de revenir sur ce côté de moi précisément parce que j'ai délaissé tout ce que représentait mon père sans me poser de questions. En accédant aux études, à un savoir qu'il n'avait pas, en délaissant la religion, en me divorçant, je reviens vers cette rupture pour voir quelles ont été les conséquences dans ma vie. » Le récit s'ouvre comme une enquête. La fille cherche à raconter l'enfance du père et de ses quatre frères. Quand son grand-père quitte sa grand-mère, celle-ci se voit contrainte de laisser sa maison, de partir vivre chez son frère et de mettre ses quatre fils les plus vieux à l'orphelinat. Le plus jeune, le père de Louise, reste avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Le petit Arthur Aimé, âgé de 5 ans seulement, devra alors lui aussi rejoindre l'orphelinat. Pourquoi sa grand-mère a-t-elle quitté sa maison et ses enfants? A-t-elle négocié avec son frère pour garder le plus jeune? Comme je n'ai jamais entendu mes oncles dire un seul mot mauvais contre leur mère, sans doute que c'était une femme bonne qui n'avait pas le choix. J'ai éprouvé en écrivant ce livre beaucoup de compassion pour les femmes de l'époque qui, comme ma grand-mère, étaient forcées d'abandonner leurs enfants. L'investigation avance au fil des hypothèses, devient une quête intérieure autour d'une absence, un récit qui ressuscite des absents. C'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps à écrire, avoue l'écrivaine. Il a fallu que je fasse un travail d'archéologue pour déterrer patiemment les émotions et les sentiments, mais aussi les souvenirs infimes, des moments plus doux et plus beaux que j'ai eus avec mon père. Ce récit pourrait opérer une sorte de changement dans son écriture, croit-elle. C'est un livre où j'accepte une partie de moi-même. Si on refuse notre héritage paternel, on refuse une partie de son enfance et de la femme qu'on est. Accomplir le deuil impossible. Lancée à la recherche du père perdu, Dupré recompose la trajectoire d'un homme, tente de saisir sa relation avec lui et se demande « Comment se construire une mémoire sur un abîme ?» écrit-elle. Des bribes émergent, comme ce jour où elle part à Old Orchard avec des amis et qui la met en garde de ne pas tomber enceinte. Ou cette autre fois où la petite Louise veut à tout prix son attention et reçoit plutôt une claque sur les fesses, la seule qu'elle n'ait jamais reçue, mais qui la marquera forcément. Grâce à la lente alchimie de l'écriture, embrassée tel un rituel, accompagnée d'écrivaines et écrivains qui l'aident à avancer, Dupré trouve des pistes pour mieux appréhender la vie de cet homme et expliquer sa fin abrupte, énigmatique et terrifiante, comme peut l'être le suicide. Cet événement tragique est révélé pour la première fois dans ce livre. Le voile sur le tabou, enfin levé. À l'époque, en 1981, ce n'était pas possible d'en parler ouvertement, précise Dupré. Jusqu'en 1958, les gens qui se donnaient la mort n'avaient pas le droit à une sépulture. C'était tabou. Il est temps de le dire maintenant, ajoute celle dont le récit la force à tout reconsidérer, à compatir avec la faiblesse du paternel. Un pan de sa biographie familiale, c'est clair, mais aussi de celle du Québec. C'était un homme retenu, à qui on n'avait pas appris à exprimer sa tendresse. Lentement, avec la virtuosité de sa langue juste, Dupré donne les mots qui ont manqué au père pour faire la paix avec ce deuil impossible. En remontant le fil du temps, la fille découvre ses qualités. Il aurait pu être amer toute sa vie, avec une enfance comme ça. Mais il était doux, blagueur et joyeux. Ni incestueux, ni violent, ni colérique. Loin des portraits d'hommes très négatifs, omniprésents dans la littérature québécoise. Mon père était un modèle positif, un homme qui pleurait quand il était triste, gentil et doux. L'époque actuelle lui permet de valoriser ce père qui ne répondait pas aux stéréotypes quand elle était adolescente. Grâce aux religieuses qui l'ont élevé, sans doute, il n'est pas devenu autoritaire. L'homme au camion réhabilite l'homme doux, mais aussi celui qui vient d'un monde différent de celui dans lequel la petite Louise grandit et étudie au collège classique et sous l'influence de la famille maternelle cultivée. Je voyais mon père comme un accident de parcours, ajoute celle qui, comme pour beaucoup d'enfants de la génération de la Révolution tranquille, reçoit une instruction qui dévalue les parents, crée des ruptures dans les familles. La jeune Louise valorise plutôt le grave et la noirceur, rien qui pourrait ressembler à la culture populaire associée au père. J'ai longtemps considéré comme un manque de profondeur ce qui était en fait une force chez lui, sa capacité à se réjouir, à passer outre ses blessures, à tourner le dos à sa douleur. Je croyais que ces gens-là ne pouvaient pas avoir une réflexion philosophique sur la vie, sur le monde. J'étais attirée par Duras, le jazz, Brel, Ferré, Barbara. Actuellement, j'essaie de me réapproprier mes origines québécoises, familiale, paternelle. Le folklore, les chansons à répondre, les sept carrés. J'en découvre toute la richesse. Avec une sincérité jamais impudique, Dupré livre une lettre d'amour au père, mais écrit aussi ce récit pour consoler sa mère, qui n'aura pas eu la chance de comprendre le geste de son mari. On a tendance à faire la mise au point sur le suicide des gens et à oublier tout le reste. Je propose une autre vision. Voyons-le comme un moment dans une vie qui n'efface pas toute la joie et le bonheur vécu aux côtés de l'être absent. On ne peut qu'approuver et inviter les lectrices et lecteurs à suivre ce vibrant voyage à rebours, ode au lignage complexe, et autant capable de réparer les plus grandes blessures. C'était Louise Dupré, Archéologie du père, un texte d'Elsa Pépin, paru le 10 février 2025 dans Les libraires.
Plus de 400 000 rendez-vous médicaux manqués par année au Québec alertent le CMQ. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 14 février 2025 dans Le Devoir. Chaque mois, pas moins de 30 000 patients ne se présentent pas à leur rendez-vous médical au Québec et ce nombre ne s'amenuise pas. Cette pratique est lourde de conséquences alors que des centaines de milliers de Québécois n'ont pas accès à un médecin de famille. Dans une déclaration écrite publiée le vendredi 14 février 2025, le président du Collège des médecins du Québec, CMQ, le Dr Moril Gaudreau, gronde contre cette tendance qui prend de l'ampleur. 30 000, ce nombre colossal est effarant, dénonce-t-il. Plus encore quand on sait que 1,4 million de Québécois n'ont pas de médecin de famille. Il indique que par année, cela représente 400 000 rendez-vous manqués sur les 18 millions planifiés. Les patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical ont été surnommés les « no-show », non-présentation. Passer outre un rendez-vous ou un examen médical sans préavis, c'est monopoliser inutilement des ressources. C'est priver d'accès aux soins d'autres personnes dans le besoin. C'est affecter les listes d'attente et c'est potentiellement risqué pour les patients aux prises avec de sévères ennuis de santé, énumère le Dr Gaudreau. Il estime qu'il est urgent de mettre en place un service d'annulation et de report des rendez-vous facile d'utilisation. Cette responsabilité incombe aux propriétaires des cliniques privées, mais elle revient au gouvernement dans les établissements publics, dit-il. Dr Gaudreau constate qu'il est facile de prévenir de tout imprévu en clinique, mais que cela est beaucoup plus compliqué en centre hospitalier. Un processus simple doit être mis en place dans tout le réseau public de santé afin que les patients puissent aisément et rapidement confirmer, annuler ou reporter leurs rendez-vous et examens médicaux, a-t-il déclaré. Nous interpellerons à nouveau les instances gouvernementales. Le phénomène des « no-show » ne date pas d'hier et pourtant il prend sans cesse de l'ampleur. Dr Gaudreau précise qu'une certaine responsabilité revient au patient. Il doit avoir le réflexe d'aviser d'un retard ou d'un empêchement au même titre que pour d'autres rendez-vous de la vie quotidienne. Le président du CMQ fait également valoir que les no-show touchent aussi les médecins spécialistes. En 2022, 25% des coloscopies planifiées ont été annulées au dernier moment parce que les patients attendus ne s'y sont pas présentés, donne-t-il en exemple. Évidemment, un patient qui ne se présente pas pour une urgence de dernière minute comme un accident de la route est justifiable. Cependant, Dr Gaudreau doute que les 30 000 rendez-vous manqués soient tous dus à de tels cas particuliers. Le Collège des médecins prévoit de lancer au cours des prochaines semaines une offensive sur ses plateformes de médias sociaux afin d'exposer aux patients les conséquences des no-show pour le réseau de la santé et des services sociaux. C'était plus de 400 000 rendez-vous médicaux manqués par année au Québec, alerte le CMQ. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne paru le 14 février 2025 dans Le Devoir.